Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial artiste. Bertrand Chamerois, qui est déjà dans ce studio pour son écran de veille, sera consacré aux reines du shopping. Notre invitée culture, Claire Chazal, pour le retour de son émission quotidienne Passage des Arts quotidienne et culturelle. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, une nouveauté côté série entre horreur, fantastique et politique. Ce sera avec Margot Barallon. Et puis on va passer à table avec l'ami bon vivant, Laurent Mariotte. Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Depuis lundi, Bertrand, vous débriefez chaque jour votre façon un programme qui a retenu votre attention à la télé la veille. Donc question rituelle, qu'avez-vous regardé hier ?
Les Reines du Shopping sur M6. L'émission de Christina Cordula propose depuis le début de la semaine une spéciale célébrité au profit d'associations avec Absa Toussi, Julia Vignali, Julie Zenati, Emmanuel Rivassou et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Alors, si la NASA souhaite informer les extraterrestres de notre existence, je leur conseille vraiment d'envoyer une copie de ce programme car ils n'auraient aucune difficulté à le dater grâce à ce message diffusé en intro de l'émission.
La semaine spéciale célébrité a été enregistrée avant l'épidémie de Covid-19 et la nomination de Madame Bachelot au poste de ministre de la Culture.
Ouais, bah alors là, un martien qui entend ça, il se dit direct « Ah bah ça, non, bah ça c'est du 2020 pur jus, hein, je te le signe les six yeux fermés. » Roselyne Bachelot, donc au casting des Reines du Shopping, un grand écart pour certains, ou plutôt, comme on dit dans l'émission...
Le petit virage 360.
Alors, je ne suis pas Sébastien Loeb, mais à 360 degrés, c'est un retour au point de départ plus qu'un virage. Hein.
C'est 180 le demi-tour.
Voilà.
360, c'est le tour complet.
Mais ce qui est intéressant avec la présence de Roselyne Bachelot dans l'émission, c'est que depuis le tournage, elle est donc devenue ministre de la Culture, ce qui fait que certaines de ses phrases peuvent avoir un double sens. Celle-ci, par exemple, elle aurait très bien pu la prononcer lors de sa nomination.
C'est un challenge intéressant. Je veux le vivre comme un moment de pur bonheur, donc pas d'angoisse. On va voir.
Alors qu'en fait, elle partait juste faire son shopping. Celle-ci, on dirait une réponse à Sonia Mabrouk, qui l'interrogerait sur la crise que traverse le monde culturel.
Je me sens confiante, mais un peu anxieuse.
Alors qu'en fait, elle venait simplement d'essayer un blazer métallisé.
Non.
Oui.
Et c'est eux qui ont mis cette musique.
Tout à fait, bien sûr.
Oui, il faut ça pour un blazer métallisé.
Évidemment, c'est la moindre des choses. Mais pas de confusion possible, l'émission a bien été tournée avant Covid et remaniement, car à l'antenne, personne ne porte de masque et on s'adresse à la pas encore ministre de la Culture à l'époque, comme ça.
Mais tu prendras un sac noir, ma chérie.
Ah ouais, ah, Roselyne, je suis déjà. Allez Roselyne, lève la jambe.
Oh. Allez Roselyne, lève la jambe. Alors le ton est familier, certes, mais il reste toujours plus respectueux que ce sous-entendu très classe de la voix off après un conseil mode de Christina Cordula aux téléspectatrices.
Si vous avez des rondeurs, faut pas le mettre parce que ça va augmenter encore.
Elle pourrait mettre quoi, Roselyne, du coup ?
Elle va mettre quoi, Roselyne, du coup ?
Dis qu'elle est grosse, mais
non,
ils
mais
sont
voilà,
fous.
C'est sympa. Alors, Roselyne Bachelot a-t-elle du style ? A-t-elle décroché la note la plus magnifique de la semaine ? Réponse ce vendredi à 17h25 sur M6.
Merci beaucoup, Bertrand Chamerois. Bonjour, Eva.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes à distance, vous êtes avec nous et avec vous, on passe au zapping du lendemain. Comme tous les jours, vous avez un temps d'avance et vous savez quels seront les moments forts sur nos écrans ce soir. Le thème du jour, Eva ?
Ce sont des hommes, parce qu'après avoir débuté la semaine avec des femmes, je me suis dit que quand même, il fallait vous rendre hommage aussi. Deux hommes et deux artistes. Le premier fut chanté par une femme, tendez l'oreille. Vous avez reconnu Philippe ?
Elle le dit, Steve McQueen.
Exactement,
mais j'aurais
Steve
pas reconnu,
McQueen.
Mais j'ai écouté.
Exactement, c'est Sheryl Crow qui chante Steve McQueen. Vous savez que les 24 heures du Mans auront lieu les 19 et 20 septembre prochains. Et à cette occasion, Canal+ propose une soirée spéciale avec le film Le Mans 66, suivi d'un documentaire fascinant sur l'acteur américain. Alors plus exactement, sur sa passion pour le sport automobile et son désir absolu d'en faire le sujet d'un long métrage baptisé Le Mans. Tournage catastrophique, entre accidents à répétition, dépassement de budget, conflit avec les studios et le réalisateur, absence de scénario, rien ne va, mais Steve McQueen, lui, il y croit.
Le Mans compte beaucoup pour moi. J'adore la course automobile, c'est un film qui m'est très cher, on espère tous qu'il sera réussi.
C'est un enregistrement inédit de Steve McQueen à entendre ce soir, donc, dans ce documentaire. Quant au film, qui a été tourné en 1970, il a fini par sortir sur les écrans et, malgré des critiques très mitigées, il devient une référence pour tous les amoureux de sport automobile. Pour Steve McQueen, l'addition, elle est salée. Même son couple ne va pas résister à cette aventure. L'acteur, il aime les femmes beaucoup, beaucoup, un peu trop même.
Ses conquêtes féminines hors mariage s'élevaient à environ 12 par semaine, un peu moins de 2 par jour. Elle voulait se vanter d'avoir couché avec Steve McQueen.
Alors dans ce documentaire très réussi, eh bien sa femme témoigne et elle raconte à quel point c'est la libération sexuelle revendiquée alors par les hippies qui a marqué Steve McQueen. Une période sans doute, celle des hippies qu'aurait adoré vivre notre second homme de la journée. C'est l'artiste américain Keith Haring. Lui aussi a voulu être libre, à tout prix et à quel prix. On est dans les années 80 à New York, des œuvres d'art le jour, des soirées de débauche la nuit, comme le raconte un de ses meilleurs amis dans un documentaire qui est diffusé sur Arte.
On fumait de l'herbe comme des cigarettes, sans parler de la mescaline, de l'acide ou des champignons hallucinogènes. On ne mentionne jamais assez la place qu'a eu la drogue dans l'œuvre de Keith.
Alors c'est un portrait remarquable de celui qui s'est imposé très rapidement comme le pape du street art et on y découvre notamment son agent, Tony Schiaffrasi. C'est un homme charismatique, pas franchement commode, qui s'est distingué par un geste spectaculaire.
Tony, c'est quand même le mec qui est allé au musée d'art moderne avec une bombe de peinture et qui a tagué « Kill Lies All » sur le tableau le plus célèbre de Picasso.
Tout le monde a dit « Quoi ? C'est lui qui a dégradé Guernica et il est marchand d'art ?»
C'est fou ça.
Oui, anecdote étonnante à découvrir donc sur Arte ce soir à 22h25. Je ne savais absolument pas que Guernica avait été tagué à un moment donné. Concernant les secrets de Steve McQueen, c'est sur Canal+ à 23h30. Et puis un petit bonus, parce que moi aussi je vais vous faire une petite révélation.
Ah oui ?
Quand je manque un petit peu d'énergie, j'écoute cette chanson.
Si je sais que tu m'aides la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, touche quand même.
Bertrand Chamerois aussi, parce qu'il danse dans le studio,
oui.
J'adore.
Évidemment, chanson pour une droite de vie de Véronique Sanson, reprise par Laïla Bekti et Géraldine Nakache, c'est dans Tout ce qui brille. Et le film est diffusé samedi sur M6 à 21h, c'est le meilleur des antidépresseurs, les amis.
Merci beaucoup Eva Rock, bon week-end, à lundi. Dans quelques minutes, Claire Chazal sera avec nous, mais d'abord musique avec Ni.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Claire Chazal.
Bonjour Philippe.
Plaisir de vous recevoir ici. Vous êtes journaliste, vous avez été figure des journaux du week-end sur TF1, faut-il le rappeler. Vous avez présenté le journal de la nuit sur la 2. Mais depuis quelques années, votre quotidien, c'est la culture, pas n'importe où, sur France 5. C'est du lundi au vendredi à 20h20. Ça démarre ce lundi. Votre émission Entrée libre est devenue la saison dernière Passage des Arts. Entre Entrée libre et Passage des Arts, la grosse nouveauté, c'est que vous n'aviez plus un invité par semaine, mais un par jour. Et cette saison, pour paraphraser la grande Françoise Giroud, quoi de neuf?
Alors, nous continuons sur ce rythme qui nous plaît beaucoup parce qu'il nous permet d'ouvrir notre champ d'invités et d'explorer des univers extrêmement différents, un peu plus pointus que des acteurs très célèbres que nous recevons, bien sûr. Donc ça va jusqu'à l'architecture, les plasticiens, des danseurs, des chorégraphes, des metteurs en scène, et c'est formidable pour nous. Donc nous continuons. La différence très légère, mais visuellement très importante, c'est que après le confinement, et je dois dire que de ce mal, nous avons tiré un bien. Nous avons dû, évidemment, tourner ailleurs qu'à France Télévisions. Et c'est toujours le cas. Nous sommes à la Plaine Saint-Denis et le décor a complètement changé. Par la force des choses, j'allais dire, sous la contrainte. Et en fait, on a imaginé, enfin le réalisateur Nicolas Ferraro, le producteur Frédéric Lacroix, a imaginé un décor virtuel très joli qui installe un lieu qui nous correspond avec une lumière qui nous paraît bien plus belle. Et donc, nous tournons tranquillement toutes nos émissions à la Plaine Saint-Denis.
Puisque vous en parlez, je vais dire un mot du réalisateur, parce que ça compte beaucoup. Nicolas Ferraro, à qui j'ai eu la chance de travailler, oui, dans l'émission Pif Paf, et c'était lui qui avait mis en image les dîners de Thierry Ardisson.
Absolument.
C'était absolument magnifique et somptueux.
Il a fait aussi l'émission de Frédéric Taddeï le soir, qui était quand même tous les soirs en direct.
Exactement.
Et qui était ce soir où j'avais
une
très belle émission.
Ouais.
Il a beaucoup d'idées et on s'entend très bien. Et on a essayé de trouver, et je dois dire qu'on en est très heureux.
Et alors, tout le monde vous a piqué votre idée, parce que dans l'émission, il y a chaque jour la question d'un téléspectateur. Alors depuis le Covid, dans tous les 20 heures, il y a la question du téléspectateur. Alors, c'est quoi chez vous la question du téléspectateur?
Alors écoutez, c'est des petits rythmes qu'on a imposés à l'émission, qui est une conversation donc avec un invité, évidemment sans aucune agressivité. On essaye de balayer et la ville, et la carrière, et l'actualité naturellement. On l'illustre, on veut que ça soit aussi vivant. Donc, en plus d'un sujet culturel que l'on lui propose, qui sort de, j'allais dire, de son univers, on lui pose une question de téléspectateur. Et en général, c'est assez...
C'est pas elle est vraie ou elle est fausse?
Elle est vraie.
Il y a deux façons de les faire.
Oui, oui.
On prend quelqu'un dans la rue, on lui dit « tu veux pas nous demander ça pour nous ?» Il dit d'accord ou il dit non. Ou alors, des fois, c'est des vraies questions.
Au début, comme nous étions un peu pris par le temps, il fallait les susciter, en enregistrer. Mais après, on les a personnalisés. Et ça fonctionne assez bien, je dois dire, parce que c'est des choses que je ne demanderais pas, moi. L'argent ne fait pas... Est-ce que l'argent fait le bonheur ou, par exemple.
Quel genre de questions vous n'auriez jamais osé poser et qui a été posée dans l'émission?
Par exemple, hier, j'ai enregistré avec... André Comte-Sponville, le philosophe, qui sort un très beau dictionnaire amoureux de Montaigne. Et la question qui lui a été posée, c'est qu'est-ce que vous auriez fait d'immoral pour arriver à vos fins, ou quelque chose comme ça. Je crois pas, j'aurais peut-être pas posé, même s'il s'occupe de la morale, puisque c'est évidemment son thème favori, l'éthique. Ouais. Mais alors il a dit... rassurez-vous, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais c'est vrai que vous, éventuellement je peux mentir. Voilà, ça c'est sa réponse.
Vous l'avez dit, c'est très œcuménique votre programmation. Vos premiers invités, les voici lundi, Virginie Efira, mardi, Éric-Emmanuel Schmitt, mercredi, Jonathan Cohen, vendredi, André Comte-Sponville, dont je viens de parler, jeudi, Ben. Ben le plasticien ou Ben l'humoriste?
Ben le plasticien.
Parce que vous pourriez recevoir les deux.
Oui, tout à fait, absolument. Mais Ben le plasticien, d'abord, c'est une figure majeure.
Il est extraordinaire.
De l'art moderne, enfin de l'art. Il a inventé quelque chose, un courant et il a rassemblé des artistes qui étaient très créatifs, hein, bien sûr. Il avait autour de lui, il y avait Armand, il y avait Yves Klein. Il se réclame de Marcel Duchamp, naturellement. C'est à la fois le surréalisme.
Et pardonnez-moi, vous êtes allé le voir à Nice ou il est venu vous voir?
Il est venu.
Parce qu'il se déplace rarement.
Oui, alors il vient parce que
le
recevons.
Parce que c'est vous.
Oh, ça, je ne sais pas. Il vient à Paris parce qu'il a une exposition tout à fait intéressante et assez majeure en région parisienne, au château de Chamarandes, dans l'Essonne. Donc, il est à Paris. Voilà.
Je continue. La semaine prochaine, il y aura Isabelle Huppert, Pierre Palmade, Dora Ito, le designer, absolument. Pierre Perret, Laurence Equilbet. Vous savez quoi? Je ne savais pas qui c'était et je me suis dit, c'est formidable d'inviter des gens dont tout le monde ne connaît pas le nom.
C'est l'une des rares femmes chefs d'orchestre. Il y en a quelques-unes, bien sûr. Emmanuelle Haïm, Laurence, mais il n'y en a pas énormément. Elle dirige le chœur. Elle s'est fait connaître parce qu'elle avait le chœur Accentus, magnifique chœur. Et elle a aussi maintenant Insula Orchestra, qui est son orchestre, sur instruments anciens. Et évidemment, c'est passionnant.
Voilà. Et Claire Chazal nous raconte tout ça. Sans fiche, vous restez avec nous. On a plein de questions à vous poser. Et Hélène Manarino qui va arriver.
Très
à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Claire Chazal qui présente Passage des Arts tous les jours sur France 5 à 20h20. Enfin, qui présente, ça démarrera lundi, parce que maintenant, à l'instant, je vous présente Hélène Manarino.
Bonjour Claire Chazal.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Clairette Chazouille, vous menez la danse depuis des années dans le milieu du journalisme.
On l'appelle Chazouille.
Ça c'est mes amis proches.
Ah ouais.
Très proches.
J'oserais pas.
Mais matin, on va évoquer plus précisément ce qui compose la chorégraphie de votre vie. Alors pourquoi, rappelons que la danse est l'une de vos plus grandes passions. C'est peut-être un signe d'ailleurs que votre papa vous surnommait Coré. Alors en grec, ça veut dire petite fille. Tout a commencé enfant, sous les toits de la piscine Molitor à Paris. Vous avez enchaîné les cours aujourd'hui. Vous continuez d'en prendre à Bastille en fin de matinée. Vous collectionnez presque les chaussons de danse. Et puis surtout, la danse classique que vous pratiquez chez vous. Après votre café accompagné d'un peu d'eau chaude, vos toasts avec du beurre, très important. Petite passion.
Ça, c'est pas sur Wikipédia. Ça, c'est le talent d'Hélène Manarino.
Puis ça va, c'est pas trop intime.
Attendez, Chazouille, attendez.
Petite passion pour un célèbre pain de mie. Et puis, il y a votre gym pendant au moins 45 minutes, une heure, et là commencent vos exercices de barre. Certains d'ailleurs que vous suivez sur YouTube, et c'est comme ça tous les matins, bah, sans exception.
Bien forcé avec le confinement, surtout.
Évidemment.
Voilà. Sinon, je vais au cours.
Ouais. Non, mais il y en a plein qui ont tout laissé glisser pendant le confinement. Hein. Tout le sport, ils ont tout arrêté. C'est pour ça qu'on est admiratif.
Ah, mais parce que c'est mon plaisir, oui.
Le tempo est donné et parfois il s'accélère, notamment quand vous entendez du rock et que vous voyez quelqu'un qui sait le danser. Vous vous dirigez directement vers lui pour qu'il soit votre partenaire. Sportive, qui fait attention à sa ligne. Vous n'aimez pas le sucre et pourtant vous faites le meilleur fondant au chocolat, surtout pendant le confinement.
Oui, ça, j'ai réappris. Oui, bon.
Donc ça, c'est quelqu'un qui est venu le goûter chez vous.
Exactement. Vous maîtrisez à la perfection le poulet rôti, le cabillaud.
Ça, c'est
four.
Aussi le confinement.
Côté resto, vous pouvez vous laisser tenter par du confit de canard, côtelette d'agneau et un bon saucisse purée.
Non.
À l'apéro.
Vrai, c'est... saucisse purée, Claire Chazal.
Ah, moi, j'aime bien la charcuterie, oui.
Wow,
et le fromage, enfin. Le... Oui, voilà.
Et l'emmental, mais il ne faut pas dire gruyère.
Ah oui, ça. J'ai jamais bien compris la différence. Mais
moi non plus.
Ça doit exister.
Claire Chazal, vous avez surtout déjà votre compagnie, votre ballet préféré, composé de Nico, Nataloche, Pipou et tant d'autres.
Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord.
Les copains d'abord, sacrée bande, vous évoquez même une communauté, vous vous écrivez tous les jours. Alors attention, vous n'aimez pas les groupes WhatsApp par exemple ou autres messages groupés, amis présentes, généreuses, rassembleuses. Vous ne supportez pas de survoler les sujets. Des amis qui vous aident souvent pour retrouver votre voiture qui se trouve souvent à la fourrière. Claire Chazal, vous vous garez n'importe où avec votre Fiat 500, mais jamais sur une place. Mais apparemment, ça va mieux.
C'est vrai, Claire Chazal ?
Non, je ne suis pas je me sers beaucoup de ma voiture parce que je vais à ce cours de danse, par exemple, tous les matins, puis après, je vais à la Plaine Saint-Denis pour tourner, etc. Ouais. Donc, ben, j'ai besoin de ma voiture, je suis chargée, c'est comme ma maison. Et je ne veux pas en être esclave. Alors, c'est vrai que je peux me permettre de me garer mal. Je l'avoue. Voilà. Et donc, parfois, je suis...
On vous l'enlève.
Bien sûr.
Si vous tenez aussi bien le rythme, c'est que vous aimez vous ressourcer chez vous, avec vos deux chats, Fenouil et la Panthère. Les fleurs aussi, que vous achetez régulièrement. Et puis, vos livres. D'ailleurs, pendant le confinement, vous avez découvert toute l'œuvre de Romain Gary. Et puis, il y a la musique. Classique, Brahms, comme la semaine dernière. Et puis, Julien Clerc, Raphaël, Grand Corps Malade et surtout, Barbara.
Il a plu sur Nantes.
Il pleut sur Nantes. Besoin de vous ressourcer aussi. Parfois, à l'époque du 20h, vous n'étiez jamais contre une petite sieste de 15 minutes après votre passage à la cantine. Alors Claire Chazal, je me permets une petite pirouette et un retour vers l'enfance. Votre maman qui préparait des petits goûters chez vous, il régnait la tranquillité et puis les heures de vélo au parc Sainte-Périne avec le chien du parc nommé Natacha. Les heures de patins roulettes aussi, rue Mirabeau et cette pente impressionnante. Et puis surtout vos booms organisés à l'âge de 13 ans, tous les samedis après-midi. Volets fermés, code vestimentaire, bermuda et chaussettes hautes, en rêvant de la vie sur cette chanson. Porque te vas, entre deux fêtes, vous alliez jouer à la poupée. Alors c'était gênant quand vous croisiez les beaux gosses du collège comme James Mortimer. Et en une complicité sans limite avec Isabelle, elle vivait au 7e étage, vous aux deux, vous aviez installé un téléphone à l'extérieur de l'immeuble pour pouvoir vous appeler. Isabelle, avec qui il y a eu quelques cabrioles, vous êtes partie en Yougoslavie avec ses parents, vous deviez rejoindre la Grèce en voiture. Erreur de chemin, vous vous êtes retrouvée coincée à la frontière albanaise, en pleine nuit, dans un contexte politique un peu compliqué, mais cela reste aujourd'hui un très bon souvenir.
Ah oui, des voyages en Grèce comme ça, avec ces deux familles qui se retrouvaient.
Oui, puis avec les douaniers albanais, ça doit être sympa.
Une nuit sympathique.
De riants personnages.
Après, on s'est retrouvés dans une île grecque, nous étions bien.
Claire Chazal, votre plus belle figure reste le pas de deux. Un moment au cours d'un ballet où deux danseurs exécutent un long duo. Et ce long duo, vous l'effectuez depuis 25 ans avec François, votre fils, votre moitié. Des messages à longueur de journée, il vous accompagne au théâtre, à l'opéra, il est avec vous en vacances et vous vous êtes donné le même surnom, Mouche, et c'est cette danse qui ne s'arrêtera jamais.
Merci beaucoup, merci Hélène. Vous êtes émue, Claire Chazal.
Oui, c'est joli, merci. Oui, c'est... Oh, je vois bien qui a pu raconter ces petits détails et Et ça me touche que cet entourage ait confié quelques petites choses, oui. Ce n'est pas une intimité gênante, donc tout va bien.
Ici, c'est jamais gênant. Dans cette émission, on s'appelle Culture Média, on n'est pas là pour gêner les gens du tout. Merci beaucoup, Hélène.
Merci.
À très vite. Dans un instant, on va parler d'une série américaine qui mêle la science-fiction et la politique. C'est notre premier indispensable du jour. Ce sera avec Margot Barallon. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Claire Chazal qui présente Passage des Arts, c'est tous les jours, ce sera tous les jours parce que ça démarre lundi à 20h20 sur France 5.
Oui, parce que le samedi soir, nous avons aussi, dans une autre case, mais à 22h30, une case donc consacrée au documentaire et c'est tout à fait passionnant. C'est à la fois des captations de spectacles mais aussi des portraits d'artistes. Et ça s'appelle aussi Passage des Arts. Voilà.
Depuis la suppression de Thé au Café sur la 2, depuis la fin du Divan sur la 3, il n'y a presque plus que vous qui faites des longues interviews d'artistes à la télé. Et je vous parle de ça parce que le magazine Vanity Fair vous a qualifié de gardienne du temple. Vous avez lu le papier, le portrait qu'ils avaient dressé de vous ?
Ah non.
Ah bah ça va vous faire plaisir.
Oula,
le ton. Non, au contraire, non, sans ironie. Non, Vanity Fair, parfois ils ont la dent dure. Mais alors là, ça va vraiment vous faire plaisir. Le ton est à la confidence, voire à la connivence. On avait rarement vu Claire Chazal aussi détendue et familière, tout en conservant son inénarrable raffinement.
Gentil, ah oui, alors ça, ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai qu'à la télévision, il y a peu de tête-à-tête. Enfin, il y en a moins. À la radio, il y en a naturellement et c'est formidable. Mais on est très heureux parce que c'est quotidien. C'est unique en Europe, en France, bien sûr. Et on y tient énormément, surtout à un moment, bien sûr, on ne va pas vous le redire, où les artistes sont dans une crise majeure, sont très inquiets, ont besoin d'une tribune pour s'exprimer et puis d'être aidés.
Et justement, comment vous allez vous organiser ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont annulées. Est-ce que vous avez dû changer le conducteur ? Déjà, vous étiez absent, l'émission était absente de la grille de France 5 du 23 mars jusqu'au 25 mai.
Voilà.
Déjà, vous l'avez vécu comment ?
Nous sommes restés comme tout le monde chez nous. Moi, comme on le disait tout à l'heure, j'ai lu beaucoup. J'ai fait aussi des Skype avec des artistes. Et puis, nous avons attendu patiemment en essayant de nous battre pour le retour à l'antenne de l'émission, ce qui a été le cas. Mmh. Effectivement, on y tenait beaucoup avant la fin mai jusqu'à la fin juin. Donc, il y a eu quand même un certain nombre d'invités. On s'est débrouillé parce qu'effectivement les théâtres n'étaient pas ouverts, que les cinémas allaient reprendre un peu plus tard.
Les sorties de livres étaient reportées.
Les sorties de livres étaient reportées, mais quand même ils sont ressortis. Et c'est vrai que c'est le secteur qui a le moins mal marché, je veux dire, qui a le mieux redémarré. Donc nous avons eu des auteurs, ben oui, voilà, c'était même le principal. Nous avons quand même eu des réalisateurs comme François Ozon qui sortait son film le 14 juillet, donc on a tout de même parlé d'été 85. Et puis nous avons fait venir des architectes comme Jean-Michel Villemotte. Voilà.
Ça, c'est l'avantage avec un architecte, c'est que les travaux durent sur 3 ans.
Voilà.
Même 3 ans et demi, si ça traîne un peu.
Et ça reste intéressant.
On est toujours dans l'actu.
Une personnalité et son actualité dure. Voilà.
Vous êtes fan de séries ? Claire Chazal.
Je ne peux pas dire que je suis fan de séries, vraiment pas. En revanche, pendant ce confinement, j'ai regardé quelques séries.
On va vous demander lesquelles, juste après vous avoir présenté Margot Barallon. Bonjour Margot.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Margot, vous parlez de séries traditionnellement ici, et là vous nous conseillez la dernière création de la chaîne américaine HBO, série diffusée en France sur OCS.
Et ça s'appelle Lovecraft Country, le premier épisode est sorti il y a 2 semaines. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une série assez difficile à définir, on est entre l'horreur, le fantastique et la politique. Alors sur le papier, le mélange vous paraît peut-être osé, mais à l'écran, rassurez-vous, c'est impeccablement réussi.
Alors d'abord, on va commencer par l'histoire.
Eh bien, nous sommes aux États-Unis dans les années 50 et on va suivre Atticus, un jeune soldat qui revient de la guerre de Corée. Il retrouve George, son oncle, qui lui apprend que son père, le père d'Atticus, hein, pas de George, a disparu depuis 2 semaines.
Il a disparu depuis environ 2 semaines.
Environ ? T'es pas sûr ?
Tu sais qu'il peut finir complètement ivre. Je ne me suis pas inquiété jusqu'à ce que son propriétaire débarque parce qu'il n'avait pas payé son loyer. Je ne sais pas où il a pu aller.
Alors, George ne sait pas où il est passé, mais Atticus, lui, a une idée. Son père lui a envoyé une lettre un peu étrange dans laquelle il lui parle d'une ville, Ardam. Atticus décide donc de partir à sa recherche avec son oncle George et Letty, une amie d'enfance.
Alors, jusqu'ici, ça va, on suit.
Voilà, mais c'est là que ça se corse, parce qu'on a signalé des disparitions très inquiétantes dans la ville d'Ardam. Et quand Atticus, George et Letty la trouvent enfin, ils tombent sur des monstres absolument terrifiants.
D'où la série qualifiée de fantastique.
Oui, et on aurait pu s'en douter quand même avec le titre. Hein. Lovecraft, c'est évidemment une référence à H.P. Lovecraft, romancier américain du début du XXe siècle, devenu culte pour ses histoires de monstres, justement. Avec la série, vous aurez donc votre dose de sursaut et d'attaque gore. Je vous déconseille d'ailleurs de regarder ça seul le soir si, comme moi, vous êtes un petit être sensible.
Et alors, on a aussi parlé de politique, qui est une autre de vos passions, Margot.
Oui, parce que, alors, ce que je ne vous ai pas dit, mais qui est très important, c'est qu'Atticus, George et Letty sont tous les trois afro-américains, comme la quasi-totalité des personnages. Et leur voyage les emmène en plein cœur de l'Amérique ségrégationniste, gangrénée par le Ku Klux Klan. Ils doivent traverser ce qu'on appelle les Sundown Town. C'était des villes dans lesquelles les étrangers n'avaient pas le droit de circuler après le coucher du soleil, sous peine d'arrestation, voire s'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau, de lynchage. Et nos trois héros, qui n'ont pas la bonne couleur de peau, vont tomber sur un shérif, un poil psychopathe.
Vous savez ce que c'est qu'une Sundown Town ?
Oui, monsieur.
Ici, c'est Sundown County. Si je vous avais trouvé dans ma forêt, comme des animaux après le coucher du soleil, cela aurait été de mon devoir de vous pendre aux arbres.
Voilà, et en fait, il est là, l'aspect politique de la série. Finalement, les monstres les plus dangereux, ce ne sont pas les créatures sanguinaires dans les bois, mais bien les suprémacistes blancs, les policiers ouvertement racistes. Et ça, même si l'histoire se déroule dans les années 50, ça résonne quand même fortement avec l'actualité.
On rappelle le titre ?
Lovecraft Country sur OCS.
Merci beaucoup Margot. Ça vous tente, Claire Chazal ?
D'abord, c'est très bien raconté. Bravo. Et mis en valeur. Oui, c'est évidemment passionnant. D'abord, ça a des résonances à notre époque, notamment sur le racisme anti-noir aux États-Unis. Moi, je suis un peu plus classique dans mes choix, je dois dire. D'abord, je ne regarde pas vraiment des séries nouvelles. Pendant notre enfermement relatif, j'ai vraiment terminé de visionner cette magnifique série qui s'appelle The Crown, mais ça, ce n'est pas tellement une découverte pour vous, vous devez la connaître.
Un peu pour moi et pas pour Margot.
Sur Netflix, Margot.
Mais je sais que c'est formidable.
C'est une bonne série.
De la royauté britannique.
Ah, The Crown, c'est où la reine d'Angleterre. On change de personnage parce qu'on change d'époque, c'est cette série-là.
En fait, on suit la vie de la reine d'Angleterre depuis son accession au trône, quand son père meurt, jusqu'à... pas tout à fait maintenant, puisque ce n'est pas terminé.
Mais, et l'autre série, Claire.
Mais on apprend beaucoup de choses. Et c'est remarquablement filmé, surtout. Alors, l'autre série que j'ai découverte aussi à ce moment-là, c'est Unorthodox. Formidable série
dont je vous avais parlé dans l'émission sur Netflix aussi.
Ça ne met sur Netflix, bien sûr, en 4 épisodes seulement. Et je crois que c'est une série israélo-allemande, semble-t-il.
Ah oui, je me souviens.
Sur ces communautés juives très orthodoxes et coupées du monde parce qu'elles se referment sur un respect de la tradition extrêmement sévère.
Et juste un mot, parce que je sais que vous êtes fan de danse, Claire Chazal, vous ne regardez pas Fame ?
Non, j'avoue que non.
Voilà, bim. Prends ça dans ta poire, le producteur de Fame. Merci beaucoup, Margot Barallon. Vous restez avec nous, Claire Chazal. On va éveiller nos papilles dans un instant. Ce sera le deuxième indispensable du jour. Mais d'abord, petit clin d'œil au portrait inattendu d'Hélène Manarino avec Augustine Galliana. Il a repris de Jeannette, Porqué Tevas.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Culture Média en compagnie de Claire Chazal. Vous connaissez Laurent Mariotte ?
Mais oui.
Laurent Mariotte nous a rejoint et alors on a appris grâce à Hélène Manarino que Claire Chazal se garait un peu n'importe où et vous avez un point commun, ce sont les prunes.
Ah joli.
Très bien.
Joli.
Qu'il nous en a apporté gentiment ce matin.
Mais oui, c'est ça le menu du jour.
C'est
Laurent.
La saison des prunes et c'est même la fin des prunes si je puis dire parce qu'elles sont arrivées avec un petit peu d'avance cette année. La Mirabelle par exemple, on a commencé à la récolter le 28 juillet et en général c'est vers le 10 août quoi. Donc vous voyez, non c'est vers le 10 août, elles ont presque 15 jours d'avance. Ouais. Une très belle récolte cette année pour les couetches, les mirabelles et les reines claudes. 60 000 tonnes de prunes récoltées dans toute la France. Donc c'est pour ça qu'on en trouve beaucoup sur les étals, dans les restaurants, dans les desserts, en tarte, en chutney. Voilà, ça se cuisine à toutes les sauces. Alors il y a la mirabelle, vous en parliez.
Vous avez apporté la mirabelle jaune de Lorraine.
De Lorraine, qu'on appelle l'or jaune là-bas, parce que ça fait vivre une vraie filière. On en fait. Ça se congèle très bien, tiens, au passage. Si vous avez beaucoup de prunes, vous les dénoyautez, vous les mettez au congèle et vous refaites des tartes en hiver. C'est super bien parce que ça supporte supporte très bien la congélation.
Et la Mirabelle Pajone qui est violette et que je vais passer à Margot Barallon qui a justement choisi un chemisier bien blanc.
C'est ça. Ça tâche pas, c'est des fruits.
Ah, hein, c'est méchant.
Et ben, la Mirabelle violette, c'est la couette d'Alsace. Hein. C'est comme ça qu'on l'appelle en fait, ouais. Philippe Vandel. Et d'ailleurs, les Alsaciens se mobilisent pour avoir l'IGP, l'indication géographique protégée, parce que c'est un fruit qui a un parfum unique et qui est vraiment très dense.
Question, quand on n'a pas la chance d'avoir un verger chez soi, qu'on va chez le marchand, comment on sait si elles sont mûres?
Alors, la couleur est un bon indicateur. Il ne faut pas qu'elle soit verte déjà, parce que tous les fruits à noyaux, ça ne mûrit plus après. Non, mais parfois, la poire, par exemple, continue à mûrir, mais la Mirabelle, non. Les petites taches de rousseur là, sur les fesses de la Mirabelle, ce n'est pas forcément non plus un indicateur de maturité, mais il faut effectivement qu'elle soit assez souple, quand même. Ça, c'est très, très important, la Mirabelle. Et l'indication pour être sûr d'avoir une belle fraîcheur, c'est la pruine. C'est cette petite pellicule qui se trouve à la surface. Là, je viens de les laver, donc elle est un petit peu partie. Mais on trouve
cette espèce de mini poussière,
un gage de fraîcheur, voilà.
La pruine.
Et la maturité, il faut qu'elle soit souple et bien jaune comme celle-ci. Oui.
Alors vous en faites quoi, Laurent? Du salé, du sucré?
On peut faire les deux. Un tagine, par exemple, de poulet au Mirabelle, une belle cocotte. Vous faites revenir de l'huile d'olive, des oignons juste émincés dans cette belle huile d'olive, une vingtaine de minutes.
C'est vous parlez avec Claire Chazal, dont on vient d'apprendre qu'elle était la reine du poulet rôti.
Oui. Ben, c'est pour ça. Donc qu'est-ce qui a changé?
Le tagine m'intéresse.
On prend des pilons de poulet, un bon poulet fermier qu'on aura été trouvé à côté de chez soi parce qu'il y a de beaux élevages partout en France, un vrai poulet fermier qui a gambadé. Les pilons, donc on fait revenir, comme je vous le disais, les oignons dans un petit peu d'huile d'olive. On les retire au bout de 20 minutes. Ensuite, on fait colorer le poulet. Et là, on y va avec du miel, les mirabelles dénoyautées, un petit peu de cannelle, du cumin, de l'eau. On laisse mijoter 30 minutes à couvert. Et au bout de ces 30 minutes, on rajoute les oignons qui ont été débarrassés avec des amandes, des raisins. On laisse compoter encore aller 15 minutes tout ça. Ça fait 45 minutes de cuisson pour le poulet. Et à la fin, vous mettez de la coriandre. Il y a un petit côté comme ça oriental qui est magnifique avec la Mirabelle de Lorraine.
J'ai fait avec ça. On fait quoi? On met de la semoule? Qu'est-ce qu'on fait comme dans les...
Un riz ou une semoule, oui. Un boulgour, c'est très bien ça, ouais. Alors en dessert, on peut faire des beignets de Mirabelle. Ma grand-mère me faisait ça en rentrant de l'école. C'est très simple. Vous prenez 200 g de farine, 100 g de sucre. Vous faites un petit puits.
C'est très simple. Il faut avoir une grand-mère. Attends, à l'école.
Bon, on en a tous eu. Trois, vous remplacez la grand-mère. Vous le faites pour vous. Aujourd'hui, 3 œufs battus, 20 centilitres de lait que vous ajoutez petit à petit, c'est une pâte à baigner, et vous versez dans cette pâte à baigner vos mirabelles dénoyautées, et ces petits tas, vous les faites cuire dans une belle pellicule d'huile quand même, dans une poêle, il faut un petit peu d'huile, c'est petit peu de friture, et vous les égouttez sur du papier absorbant, ces beignets, vous les faites cuire 3-5 minutes par côté, absorbé sur le papier absorbant et sucre glace à la fin, ça c'est super.
Ouais, on l'appelait mémé calorie. Et avec les couettes alors.
Mais manger, bouger, après vous faites un petit peu
mais
de
évidemment,
sport.
Évidemment, voilà, surtout qu'on a le droit de faire du sport
mais bien
sans
sûr,
masque, du vélo.
Ça, c'est la bonne nouvelle, exactement.
Mais vous avez vu, Claire, on n'a pas le droit de rouler à deux à l'heure en costume.
Bien sûr.
Il faut être sur le vélo, mais en tenue de sportif et envoyer du bois, comme
exactement.
On dit. Les Mirabelles.
La couette, une tarte fine aux couettes. Clin d'œil à Pierre Hermé, qui est un de nos plus grands chefs pâtissiers qui vient d'Alsace, qui a été élevé à la tarte fine aux couettes de son père. Une pâte feuilletée que vous faites tout simplement cuire comme ça. Vous la faites même pas cuire,
je dis
n'importe quoi.
Pâte feuilletée,
quoi. Non, vous l'achetez, une belle pâte feuilletée.
Ah ouais.
Il y en a des très bonnes surgelées, Claire. Non, c'est technique.
On la demande à la grand-mère.
Non, on l'achète.
Non, c'est trop difficile. La pâte feuilletée, blague à part, c'est
pâte feuilletée, les oreillons de couette par-dessus. Les oreillons, c'est la couette dénoyautée. Du beurre, du sucre sur la pâte feuilletée d'abord, sur les couettes ensuite. Et vous mettez ça 25 minutes au four à 200 degrés. Tarte fine aux couettes. Et à la sortie du four, un petit peu de cannelle comme ça qui va venir infuser sur la couette. C'est un très bel accord.
Merci beaucoup Laurent Maillot. Ça sera quoi le thème demain de votre émission La Table des Bons Vivants sur Europe 1?
On va parler cueillette avec un passionné de botanique, champignons, herbes sauvages, bien les choisir pour ne pas se tromper. Et puis Arnaud Ducré viendra avec nous, on va manger des pâtes aux palourdes.
Oui, si on se trompe sur les champignons, on perd des auditeurs.
Oui,
merci beaucoup Laurent Maillot. Vous restez avec nous Claire Chazal. Merci Margot, à très très vite. Culture Média qui continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Claire Chazal, Passage des Arts sur France 5, je l'ai dit, c'est du lundi au vendredi à 20h20, et puis aussi le soir, en deuxième partie de soirée, sur la 5. Comment sont les audiences de Passage des Arts? Vous êtes contente de votre saison?
Alors, on est content parce que déjà, on est content d'avoir cette émission. L'année dernière, en temps, j'allais dire normal, avant la crise, on a eu des satisfactions et vraiment des bonheurs d'audience qui sont allés jusqu'à 450 000 téléspectateurs. Donc, on était assez heureux.
Me permets de le dire, 450 000 téléspectateurs avec une interview de 20 minutes.
Oui, 25 minutes.
Sans danseurs qui font coin-coin, sans jingle, etc. C'est une performance.
C'est gentil, oui, on était assez heureux. Ça a été un petit peu plus difficile, mais je crois que c'est le cas pour toutes les émissions culturelles, juste après le confinement, parce qu'il y avait un tel appétit d'actualité, malheureusement sombre, mais c'est ainsi. Mm-hmm. Nous arrivions un petit peu derrière. Voilà, on croise les doigts pour cette année, on y croit.
Est-ce que la chaîne vous a imposé des clauses d'audience ou non? C'est dans le cahier des charges de France 5, qui est une chaîne vraiment à part, on peut le dire.
D'abord, c'est une chaîne formidable, une chaîne à part, mais il y a quand même des objectifs, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Moi, je la comprends, cette règle. Je l'ai vécue sur TF1, ô combien. Mais là, nous étions... Bon, c'était évidemment paroxystique. Mais c'était normal aussi de regarder les audiences. Nous étions payés pour ça et nous avions ces objectifs. Ils existent sur France 5, mais c'est plus souple. C'est accommodant.
C'est combien? C'est 1% la part de marché qu'il faut faire?
Un peu plus, un petit peu plus quand même. Un 2, un 3, un 4. Oui.
D'accord, c'est ce que vous demande la chaîne. Oui, est-ce que vous allez inviter la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot?
Mais volant, bien sûr, tout à fait. D'abord, moi, je la connais bien. On se croise extrêmement souvent à l'opéra, depuis toujours.
Ah oui, immense fan d'opéra, elle aussi.
Bien sûr, elle est passionnée de musique et d'opéra. Donc, avec grand plaisir, oui, bien sûr, bien sûr.
Et vous avez failli être à sa place?
Alors, je ne sais pas, j'ai bien entendu les rumeurs,
c'est plus que des rumeurs, je ne me serais pas permis, c'est
non,
des journaux.
Philippe...
Challenge a révélé début juillet que vous avez parti de la liste des candidats potentiels avec Jean-Michel Jarre, et selon le Canard du 3 juillet, vous avez fait passer doucement le message à l'Élysée via votre ami Marco, qui a la réputation d'être en bon terme.
Alors,
avec Brigitte
là,
Macron.
Je le dis, c'est archi faux, je le précise. On en a déjà parlé avec Marc-Olivier. Ce que dit le Canard enchaîné est archi faux. Marc-Olivier n'a jamais parlé de moi à l'Élysée. Et moi-même, je pourrais faire passer un message si je le voulais. Je ne l'ai pas fait, je n'étais pas candidate. Voilà, ouais. C'est très clair. Et parce que d'abord, je trouve que c'est une profession très difficile. Je trouve que 18 mois, c'est très court. Qu'il faut être très courageux pour y aller. Et que c'est une période critique un peu pour les artistes. Donc,
Vous l'aurait proposé, vous auriez dit non.
Mais non, on ne peut pas dire non. Mais non, je n'aurais pas dit non. Bien sûr que je n'aurais pas dit non. Parce que c'est un magnifique travail. C'est une magnifique mission. Je n'aurais pas dit non. Mais j'aime l'émission que je fais. J'aime mon métier de journaliste. Et je trouve que la politique est rude. Il faut accepter de prendre des coups. Donc, bien sûr que je n'aurais pas dit non. Ça ne se refuse pas. Mais je n'étais pas candidate. Donc, personne n'a appelé pour moi et encore moins Marc-Olivier. Voilà,
et alors, attendez. Cette fois-ci, je cite le Figaro. On vous avait, écrit le Figaro, proposé de succéder à l'époque, en 2018, à Françoise Nyssen, et on dit que c'est vous qui avez dit non, dit le Figaro.
Archi faux. C'est exactement l'inverse, pardon de le dire, mais là j'étais plus candidate, on peut dire la vérité.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que, encore une fois, moi le métier de... Enfin, c'est le plus beau poste, et au fond, être un peu utile pour la collectivité, si on peut le faire une fois dans sa vie, oui. Je sais ce que ça veut dire un travail jour et nuit, ça veut dire renoncer à beaucoup de choses, se consacrer entièrement, se donner entièrement à cette tâche. Mais c'est formidable, c'est passionnant. Françoise Nyssen, qui est une amie, l'a exercé très bien. C'est vrai qu'au début de ce quinquennat, j'étais tentée, et je crois que j'aurais bien aimé tenter cette aventure. Mais je n'ai pas été appelée à ce moment-là, donc c'est exactement l'inverse. Voilà, je préfère le dire très clairement.
Quelle énergie vous avez? Comment vous faites pour avoir toute cette énergie, aller tous les jours à un cours de danse classique?
Non, mais moi, c'est pas un effort pour moi, c'est un plaisir. Moi, je suis beaucoup mieux après qu'avant. Je peux être fatiguée le matin, aller au cours et être moins fatiguée après. Je conseille à tout le monde de trouver le sport qui lui plaît. Parce que le sport qui est une contrainte, c'est très compliqué. Je le comprends. On ne trouve pas cette discipline-là. Si c'est un plaisir, mais il faut faire ce qu'on a envie de faire. Je ne sais pas, moi, la course, le... Bon, moi, c'est ça.
Et vous, c'est la danse. Quel bonheur de vous avoir entendu ce matin. Merci. Avec cette énergie, Claire Chazal, et cette franchise. Merci beaucoup. Je rappelle, donc, Passage des Arts sur France 5, ça démarre lundi. C'est du lundi au vendredi à 20h20.
Il y a aussi un peu de France Info, un peu du magazine Lire et le Grand Entretien. Enfin,
on ne peut pas tout dire, on est obligé de rendre l'antenne. Mais oui, on peut pas tout dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, voilà. Merci à tous. Juste pour dire que nous, on se retrouve, non pas demain, mais lundi pour Culture Média. On sera avec Jules, pas le rappeur, mais le dessinateur de presse, pour la deuxième saison de la série animée 50 nuances de grec, c'est sur Arte. Puis Amélie Nothomb pour son roman très très attendu de la rentrée littéraire, Les Aérostats. Juste après le flash, ce sera Anne Romanoff et sa bande, ça s'appelle Ça fait du bien. Bon week-end, à lundi.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.